France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les complaintes criminelles, troisième partie. Complaintes criminelles, qui relèvent d'une production éphémère, foisonnante et méconnue, sont devenues la passion d'un chercheur-collectionneur, Jean-François Hetzen, dit Maxou, qui vient de publier chez Bleu Autour une somme de près de 700 pages sur le sujet, Chanter le crime, canard sanglant et complaintes tragiques. Ce travail monumental, fruit d'années de recherche et de collectage, est unique en son genre. Richement illustré et consultable à partir de n'importe quel chapitre, il constitue un précieux guide pour les historiens du crime, ceux de l'art populaire, les musicologues, voire les chanteurs en quête de répertoire. Aujourd'hui, nous continuons à explorer, en compagnie de Maxou Hetzen, l'âge d'or des complaintes criminelles sous la Troisième République de 1870 à 1940. À cette époque, plusieurs auteurs-éditeurs, tels que Léon Ayard, Francis Isnik, Léon Bonenfant et Louis Simonet, se distinguait par une production opportuniste et abondante, faisant écho aux actualités les plus sensationnelles ou les plus sordides. La rentabilité commerciale semblant être leur principale préoccupation, ils débitaient à longueur d'année des chansons d'actualité pour les colporteurs et chanteurs de rue qui gagnaient leur vie en les vendant aux passants pour un prix modeste. C'est le cas de La tuerie du Landreau, complainte écrite en 1913 par Francis Isnik sur l'air « Non, tu ne sauras jamais », qui a été enregistré en 1998 par Rachel Peignet sur un CD édité par Dastume et consacré aux chansons de Nantes.
C'est dans un hameau à 20 km de Nantes, placé tout près du Landreau, que règne hélas l'épouvante. Ah bah, brillassé, un enfant gamin misérable a d'une façon effroyable tué, assassiné son infortuné patron et sa première victime. Alors se perd notre raison à vouloir expliquer ses crimes, ivre désormais de sang, dont la vue maintenant l'excite. À présent il se précipite, même sur de tout petits enfants.
C'est un fait divers qui s'est passé pas loin de Nantes, qui est encore très présent dans les mémoires du lieu. Récemment, dans un colloque, des historiens ont témoigné que dans les familles des environs, on s'en rappelait. C'est une histoire assez terrible d'un jeune commis de ferme qui, sans doute débordé par le travail, fatigué, a surréagi à un reproche que lui faisait son patron. Il lui a donné un coup d'outil agricole et il l'a tué. Et ensuite, pris par une forme de folie, il ne voulait pas que ça se sache, il a tué tous les habitants de la ferme. Donc il a tué 7 personnes en oubliant un bébé qui dormait dans son couffin. Et c'est une affaire très, très étrange parce qu'elle s'est jugée, si ma mémoire est exacte, je n'y étais pas, mais je crois 2 ou 3 jours avant que les lois modernes sur la justice des mineurs entrent en action. Alors le criminel s'appelait Marcel Reduro. Et ça dit peut-être quelque chose aux gens, parce que André Gide a écrit sur l'affaire Reduro dans une collection d'ouvrages qui s'appelait « Ne jugez pas », et qui, malheureusement, qui n'a pas eu beaucoup de numéros, mais André Gide a écrit sur cette affaire qui l'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Était-il fou? Avait-il perdu sa capacité de raisonnement? Et il a été mis dans une maison de correction. En fait, il est mort très peu de temps après de maladie.
Marcel Reduro, tel est le nom du misérable, méritoir l'échafaud s'il est vraiment responsable. Assez d'assassins, oh non, plus de cette triste tombe, assez d'horribles hécatombes faites par ces gamins. Il faut sévir à présent contre l'enfance criminelle, car nous voyons bien trop souvent ces enfants à l'âme si cruelle qui pour un oui, pour un non. Tu sens pitié sans conscience, armons-nous pour notre défense d'une nouvelle loi sans pardon.
Maxou Etzen, je voudrais savoir si ce phénomène des complaintes criminelles a perduré pendant la Grande Guerre.
Alors, plus difficilement, parce que à partir du moment où les distractions étaient quand même contrôlées, une chanson de ce type-là était difficilement transmissible. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Bon, il se trouve que tous les chansonniers qui faisaient dans la matière criminelle se sont reconvertis dans la matière patriotique. Et il y a quelques cas où le patriotisme croise la route des crimes de guerre. Alors, il y a deux affaires très connues. Il y en a une, c'est l'enfant au fusil de bois. C'est un petit enfant qui jouait avec un fusil de bois qui était abattu par des troupes allemandes. En août 14, hein, dès le début, ça a été monté en épingle par la propagande, ces Allemands qui tuent même les enfants. En fait, c'était un gamin allemand qui a été tué par des troupes allemandes. Voilà. Bon, enfin, mais donc, le patriotisme s'en est donné à plein feu. Et il y a l'affaire Émile Després. Alors, Émile Després, c'est un pseudonyme qui a été donné à un jeune garçon qui voulait donner à boire un Français prisonnier. Un Allemand lui a dit « Non, tu vas pas lui donner à boire, tu vas le tuer. » Et le Français aurait retourné l'arme contre l'Allemand. Voilà, c'est un récit assez romancé, mais c'est du patriotisme à l'état brut. Mais c'est une chanson sur ce qu'on peut appeler un crime de guerre. Voilà. Donc je les ai inclus dans mon corpus, mais il y en a très très peu.
La Grande Guerre a également suscité d'innombrables chansons sur la condition des soldats dans les tranchées, telles que les Éparges, du nom d'un village de la Meuse qui fut le théâtre d'une terrible bataille au long de l'hiver 1915. Écrite par un poilu sur l'air d'une chanson d'Aristide Bruand, à Saint-Lazare, elle fut enregistrée en 2017 dans la collection des musiques de la Grande Guerre, éditée par Hortus, par Claude Ribouillot et sa bande de musiciens, avec Paul Grolier au chant.
C'est un sale coin que je t'écris, mon très cher frère. Y a tellement de boue, j'en suis pourri, on me croirait terre. J'ai la flotte par-dessus les genoux, j'en mène pas large. Et je grelotte en songeant à vous, je suis aux Éparges. Comme tranché, y a rien de rien, faut voir cette vie. T'as pas d'idée de sale terrain, moche à l'envie. On boit dans des trous d'obus, il y a guerre de marge. Pour se balader, mon vieux salut, je suis aux Éparges. Je crève de faim, y'a rien que la nuit qu'on ravitaille. On bec une fois, puis c'est fini pour la mangeaille. Un seul repas, un seul par jour, m'en met une large. Je t'assure ben, je ne pèse plus lourd, je suis aux Éparges. Je me demande comment je peux résister à tant de souffrance. La bête humaine, il faut l'avouer, plus fort qu'on pense. J'aimerais mieux courir au péril dans une charge. Tête embourbée jusqu'au nombril, je suis aux Éparges. Plus sinistre, ravin de la mort, où l'on s'enlise. Mourir comme ça, quel triste sort, faut que je te dise. Que des milliers de bons malheureux, gloire inconnue, furent pris vivants par la boue d'eux, ce ravin qui tue.
Peu après la guerre, il y a une affaire qui a fait un bruit considérable, au point qu'aujourd'hui on en parle encore, et même avec un certain amusement. C'est la fameuse affaire Landru.
Eh oui. Alors l'affaire Landru, c'est une affaire terrible. Il y a quand même une dizaine de femmes qui ont disparu et un enfant. Et ce qui est très étonnant, c'est que, bon, une grande abondance de chansons qui a été écrite, 24... retrouvées à ce jour.
Toutes de l'époque.
Ah oui, ça, je parle en termes de chansons vraiment contemporaines, entre l'arrestation et l'exécution.
Donc là, vous pouvez rappeler les années peut-être?
Je crois qu'il a arrêté en 1920. Et exécuté en 22. On est vraiment dans l'immédiate après-guerre. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que la forme des complaintes change. On n'a plus de complaintes interminables. Ça se resserre, 3-4 couplets, un refrain. Et on traite cette affaire-là unanimement sur le mode de la gaudriole. C'est-à-dire les petites poulettes au four, elles se consumaient d'amour, toute forme de métaphore à ses limites. Et en particulier, un machisme avéré. Mais c'est un pauvre homme. Pourquoi est-ce qu'il a tué ses femmes ? Ses femmes, elles n'étaient même pas ses épouses. Comme si le fait de son épouse, on avait droit de vie et de mort dessus. Enfin voilà, des choses comme ça. Landru, ce grand bienfaiteur de l'humanité qui a inventé le divorce express. Des choses comme ça qui vues d'aujourd'hui, on comprend pas. Enfin, c'est rire, après tout, si vous voulez, mais ça atteint vite des limites qui... Voilà, c'est très, très étonnant.
Alors là, on a un document d'époque encore, enregistré en 1921 par Boucaud, qui était donc un chanteur comique et aussi un chanteur d'opérette de ces années-là. La chanson s'intitule « Les femmes de Landru ». Et c'est quand même un document là de première main, puisqu'on est... On est typiquement dans la chanson à chaud, écrite. Et là, on est plutôt dans la catégorie, justement, chanson satirique, chansonnière, j'ai envie de dire.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé, à la fin du 19e et un petit peu au 20e, d'intégrer cette actualité criminelle sur la scène en tentant d'en faire un genre. Mais ça n'a pas pris parce que les choses étaient trop sinistres. Parler de meurtres d'enfants ou de drames passionnels, c'était, et en les localisant et en nommant, c'était beaucoup trop dur par rapport à l'ambiance générale.
De café-concert,
voilà. Et donc, ce qui change avec Landru, c'est que le personnage, en particulier au moment de son procès, ses prises de parole, ses bons mots, ses plaisanteries, ont séduit les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes lui ont déroulé le tapis rouge pour Landru en spectacle, quoi. Et donc, les chansons, du coup, se sont mises à l'unisson.
Je crois me le rappeler, la première qui l'ait fait brûler, c'était une nommée Margot, une femme de derrière les fagots. C'est dans l'esprit qui lui succéda, on la retrouvait que c'est si bien, comme dans la célèbre mère, et bien avec les os de Jeannette. Les jambes de Jeannette lui servaient d'allumette, comme ça flambait comme du marais, il allumait sa pipe avec. Les jambes de Margot remplaçait les copeaux pour allumer son feu le matin. Il s'en servait à le gredin comme ta margota. La douzième qu'il fit rôtir, elle a dit terre ou des martyrs. Ils commentèrent à flirter, à passe plein de la Trinité. Il l'emmena dans sa villa, justement le jour du mardi gras. En disant dans ma salle à manger, après le mercredi descendre. Les pieds de la pauvre petite lui servaient d'anthracite, car cette espèce de vieux loupoc avec sa poule faisait du coq. Les cuisses et les bras, il en a fait un tas pour trouver son appartement, sans même choisir, il tapait tant comme dans du souvenant.
Landru, c'est quand même un cas d'école, parce que, vous l'avez dit, on a 24 chansons qui traitent de cette affaire sur le moment. On a cet enregistrement d'une chanson satirique, fait également sur le moment, et il y a eu une postérité de cette affaire.
C'est-à-dire
qu'on retrouve le thème de Landru à travers la chanson du XXe siècle. Alors, on peut citer par exemple Idylle en forêt, enregistrée
de Francis Blanche,
en 1955, donc on est comme bien après. On peut citer également Charles Trenet, qui en 1963 fait une chanson qui s'intitule précisément Landru. Ce qui prouve à quel point c'est encore présent dans l'imaginaire collectif.
Landru est un personnage de légende qui incarne le croque-mitaine. C'est Barbe Bleue, c'est un Barbe Bleue moderne. Donc il reprend la place de Barbe Bleue dans un imaginaire. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui ne mangeaient pas leur soupe, à qui on a dit « si tu ne manges pas ta soupe, Landru va venir te tirer les pieds ce soir ». C'est évident, quoi. C'était un croque-mitaine.
Mais alors, ces chansons écrites bien après, elles sont quand même très différentes dans leur fonction de celles décrites sur le moment.
Bien sûr, elles n'ont aucunement pour fonction d'apprendre quelque chose aux gens. Ce qui était le désir initial de la complainte criminelle, de raconter une histoire en la faisant partager au public et en faisant partager une émotion collective. Ensuite, il est certain que la matière criminelle inspire tout un tas de créateurs dans tout un tas d'arts, en particulier la chanson. Et donc, ce sont des personnages, encore une fois, de légende, mais qu'on a envie de faire revivre pour s'en moquer ou pour les glorifier ou pour les vilipender encore plus. Et Landru est prêt à l'emploi pour ça.
Donc voilà, une figure qui sera abondamment chantée par la suite. Donc ici, par Charles Trenet en 1963, dont il a écrit les paroles et les musiques.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, silence, vous faites évacuer la chambre. Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres, et là celle montait et descendait en cendres. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu, il a dans ta cheminée trouvé un nez calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, il y a une veuve qui t'a eu la guillotine.
Maxou Etsen, au cours des années 20, après l'affaire Landru, il y en a d'autres encore qui, évidemment, suscitent encore des complaintes criminelles, parce que la veine n'est pas tarie. On est encore à une époque où, certes, le phonographe commence à se répandre, la radio, bon, c'est un peu les débuts, mais commence à occuper les foyers à partir surtout de la fin des années 20, et on n'en est pas encore à la télévision. Non. Donc, on va dire que la chanson est encore un support de diffusion, un média presque, voilà, de l'époque. Et donc, en 1927, il y a une affaire que vous aimez bien, parce que c'est même vous qui avez interprété cette chanson, dont sinon on n'avait aucun enregistrement, c'est l'affaire Barato.
L'affaire Barato, c'est une affaire limougeaude qui se passe dans la bonne ville de Limoges, et pareil, elle a suscité des chansons, parce qu'elle se passe dans la bonne société limougeaude, et elle met au jour des personnes qui se droguaient, etc. Donc ça jette un voile sur la bonne société limougeaude, ce dont le petit peuple est très, très content, et donc raconte avec abondance de détails tout ce qui s'est passé. Ben, Barato, il était suspecté d'avoir abattu un chauffeur de taxi, et en fait, on n'est pas sûr qu'il l'ait fait, mais avant d'être emprisonné, il a trouvé le temps de tuer son petit copain. Enfin, ça a été une sombre affaire, et donc qui a tenu en haleine la ville de Limoges jusqu'à la condamnation à perpétuité de Barato, qui est parti au bagne peu de temps après. Je crois que c'est une chanson sur l'air de la Paimpolaise, donc ce qui illustre le fait que c'est un timbre, voilà, donc à la fin des années 20, ce timbre qui a 30 ans, est toujours utilisé et toujours populaire.
Et donc c'est vous, Maxou, qui donc avez enregistré pour les besoins de ce livre Chanter le crime, dans le cadre du film sonore réalisé par Philippe Busser, qui accompagne le livre sous la forme d'une clé USB. Donc on a droit à cette interprétation exclusive, presque j'ai envie de dire, de cette chanson de 1927, par vous-même, Maxou, et vous vous accompagnez à la vielle.
Bah, bien sûr.
Votre instrument préféré?
Mon instrument de prédilection.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Un crime affreux, épouvantable, à Limoges a été commis par un cynique misérable, Barato, l'infâme bandit, qui tua froidement pour avoir de l'argent un brave chauffeur d'automobile, père de charmants bambins. Et ceci vraiment est horrible, plaignons ces petits orphelins. Nous pensons tous avec horreur au plus atroce des forfaits, quand il frappa avec fureur de cette hache qu'il cachait. Et souvenons-nous quand dans le vaincu, il alla l'infâme Barato de sa malheureuse victime revoir le corps encore tout chaud. Ah mon Dieu, quel affreux cynisme! Aujourd'hui devant la justice, pour venger l'innocente victime, charlé cet homme plein de vice, il a répondu de son crime, il est condamné à perpétuité. Vous les pères et mères de famille, devant ce lâche assassin, vous pensez à l'angoisse qui brille dans les 12 yeux des orphelins.
Maxou Etsen, donc, qui chantait lui-même cette complainte de l'affaire Barato, qui date de 1927. Et d'ailleurs, ça nous entraîne vers une autre affaire qui a eu lieu en 1933, alors qui, elle, est encore très, très célèbre.
Oui.
Je pense encore dans les mémoires, puisqu'il s'agit de Violette Nozière.
Et oui, l'affaire de la rue de Madagascar, comme on a dit pendant quelques jours, avant de lui donner le nom de la jeune criminelle.
Donc là, on est en 1933.
1933, fin août. C'est une affaire qui m'a toujours beaucoup ému. Alors, donc, elle a suscité 17 complaintes à l'heure actuelle, non 18, mais bon, il n'est pas interdit qu'on en trouve encore d'autres, avec deux versants. Un versant tragique du côté de Violette, qui, je rappelle, a empoisonné son père et tenté d'empoisonner sa mère.
Et pour quelle raison, on le sait ?
Alors, l'enquête de l'époque a toujours suspecté que ça soit pour les voler. Or, il semble que ce n'était pas le cas, même si elle les a volés, mais ce n'était pas la raison fondamentale. Violette Nozière a toujours prétendu que son père se livrait à des actes incestueux sur elle depuis ses 12 ans. Mais en 1933, cet argument n'a jamais été entendu. Lorsque pendant le procès, on évoquait l'inceste, le président disait « Mais écoutez, on ne parle pas de ça, voyons. Enfin, c'est pas décent de parler de ces choses-là. » Et une des choses importantes, c'est que Violette Nozière a été en quelque sorte l'incarnation d'une jeunesse que déjà on peinait à comprendre. Et Violette Nozière a commis le crime suprême, le parricide, et elle a été jugée par des pères de famille. Quand on voit ça à notre époque, c'est quand même renversant que ceux qui étaient atteints dans leur virilité et dans leur rôle de maître de famille par le crime de ce bon ouvrier selon toute sa réputation d'alors, ont condamné Violette à mort.
Ô pauvres parents malheureux, victimes de cette gueuse, votre triste mort affreuse est toujours là devant nos yeux. La méchante vous a ravi, à la foule qui vous estime, il faut que par la guillotine, elle expie ce crime odieux.
Et donc Violette est condamnée à mort en 34, mais elle a été graciée à Noël 34. Ensuite, sa peine a été réduite et a été libérée par le général de Gaulle en 1945. Et moi, ce qui m'émeut toujours, c'est de savoir qu'en 1962 ou 62, je crois, elle était réhabilitée par la cour d'appel de Rouen. C'est-à-dire que c'est une condamnée à mort qui est morte avec un casier judiciaire vierge. Je crois qu'il n'y a qu'un seul autre cas dans la jurisprudence française. C'est une histoire qui sort du commun et je ne saurais trop conseiller la lecture de l'ouvrage d'Anne-Emmanuelle de Martini, brillante historienne qui fait de cette affaire Violette Nozière le centre de l'entre-deux-guerres, et elle utilise quelques complaintes dans sa source, ce dont je lui suis infiniment reconnaissant.
Et donc c'est sans doute ce qui vous a conduit à interpréter vous-même avec vos amis Monique Brun et Roland Brou une complainte sur Violette Nozière. Et vous avez choisi à dessein celle dont la morale est différente de la majorité.
Voilà.
Surtout parce qu'il y a eu 17 complaintes sur l'affaire Violette Nozière, dont une qui s'est vendue à 1 million d'exemplaires.
Voilà.
Mais ce n'est pas celle-là que vous avez choisie.
Non, il y en a une où, si on entend bien le dernier refrain, elle fit la noce à 12 ans, n'est-ce pas, une victime en somme. Faire la noce à 12 ans, c'est bien l'inceste. On évoque ça. Et ceux qui la jugent à présent sont des hommes. On pointe le doigt sur le fait que c'est une victime des hommes qui est jugée par des hommes. Donc voilà pourquoi on a choisi cette chanson-là qui est sur un air de... C'est une chanson dans la nuit, je crois.
La foule se pressera au procès, réclamant la vengeance. La parricide, alors ayant payé, sera vite oubliée. Il faudrait en reparler cependant, pour que dans les familles, contre le vice on défende nos filles. Souvenez-vous parents, la loi condamne et punit les enfants maudits, c'est toute justice. Mais ne pourrait-on songer à les protéger et sauver du vice? Elle fit la noce à 12 ans, n'est-ce pas pourtant une victime en somme? Ceux qui la condamnent à présent sont des hommes. Ceux qui la condamnent à présent sont des hommes.
Pour accompagné l'ouvrage de Maxou Etzen, Chanter le crime, ce dernier a participé, avec ses amis Roland Brou et Monique Brun, à un film sonore dont nous venons d'entendre deux extraits de complaintes sur l'affaire Violette Nozière. Il faut en effet préciser que toutes ces complaintes criminelles destinées aux chanteurs de rue n'ont pas été enregistrées à l'époque de leur création. Les seules gravures de ce genre qui existent sont celles du début du XXe siècle, lorsque l'on a essayé, sans grand succès, d'interpréter des complaintes criminelles sur les scènes de café-concert. Dans les années 30, le nombre de complaintes écrites reste significatif, mais leur tirage semble diminuer et elles sont parfois même renéotypées. C'est le cas en 1932 pour l'assassinat du président Paul Doumer et en 1933 pour l'affaire des sœurs Papin qui ont tué leur patronne au Mans dans des conditions assez horribles. Afin de coller davantage à l'actualité, les colporteurs ont tendance à remplacer les illustrations dessinées sur leurs canards sanglants par des photographies véritables récupérées dans les imprimeries de la presse quotidienne. Ils constatent cependant que le public proteste de plus en plus face à ce répertoire criminel qui commence à effrayer. Autrefois mis en avant comme exemple pour la foule, les exécutions cesseront d'ailleurs d'être publiques en 1939. Alors que la production de complaintes véritables diminue, certains compositeurs de renom se livrent à l'écriture de complaintes de fiction, à la manière des complaintes criminelles de Naguère.
L'exemple clé, c'est la complainte de Fantômas, pour laquelle Kurt Weill fait une musique. Mais si on regarde bien l'écrit de Death Knows, elle est sur la coupe de la complainte de Fualdès. La mélodie de Fualdès s'adapte impeccable à la complainte de Fantômas. Alors, Fantômas est un personnage littéraire de légende, mais ce que Death Knows a fait, c'est se mettre dans la peau d'un chansonnier d'une époque indéterminée où il y aurait un criminel qui s'appellerait Fantômas. Je vais vous raconter l'histoire.
Alors, cette chanson, c'est intéressant, elle a été composée donc, par Kurt Weill en 1933, lors de son passage à Paris. Il était sur le chemin de l'exil entre Berlin et New York. Donc, il a passé un petit temps à Paris et donc il écrit cette complainte. Et elle a été enregistrée bien plus tard, en fait, finalement, par Francesca Solville en 1966. Et donc, c'est finalement la première trace enregistrée de cette très belle chanson, qui est donc à la manière d'eux.
Qui est à la manière d'eux et qui pourrait être sur l'air d'eux.
Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nombre, des tortures, des violences, toujours impunies, hélas, du criminel Fantômas. Sans personne, il assassine, mais JVD de Fandor va lui faire subir son sort, enfin sur la guillotine. Mais un acteur très bien grimé, à sa place est exécuté. Dans la nuit sinistre et sombre, à travers la tour Eiffel, Juve poursuit le criminel, en vain guette-t-il son ombre, faisant un suprême effort, Fantômas échappe encore. Pour ceux du peuple et du monde, j'écris cette chanson sur Fantômas, dont le nom fait tout trembler à la ronde. Maintenant, vivez longtemps, je le souhaite en partant. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantômas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits?
Fantômas, héros du roman feuilleton de Pierre Souvestre et Marcel Alain, publié en 1911, a été porté à l'écran 2 ans plus tard par Louis Feuillade. Fantômas est resté très populaire dans les imaginaires, au point d'avoir suscité en 1933 cette complainte, signée Robert Desnos et Kurt Weill, qui a été enregistrée 30 ans plus tard par Francesca Solville. Dans la prochaine émission, nous arriverons avec Maxou Etzen à la fin des complaintes criminelles. Je vous recommande la lecture de son passionnant ouvrage paru chez Bleu Autour, dont vous trouverez les références sur le site francemusique.fr. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Xavier Atto à la prise de son, Philippe Mercher au mixage, Doria Zénine à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.